This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Tunisie et au Sénégal, deux pays à la une d'ailleurs dans le monde avec Michaël Thébault. Le journal de la présidence Trump, notre rendez-vous du lundi. Frédéric Carbone tout à l'heure en direct de Washington. À 18h15, l'édito d'Anthony Bélanger. Trudeau du Canada rencontre Trump des États-Unis. Et tout de suite, on va parler de moteurs de recherche sur Internet.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Google écrase le marché de la recherche sur Internet et a la particularité, en plus de ce métier de base, d'offrir, entre guillemets, 1000 services adjacents dont le carburant se nomme « données personnelles ». Les requêtes, les mails, les recherches, les localisations sont perpétuellement malaxées afin d'établir un profil précis de chaque utilisateur. Alors, il faut le reconnaître, c'est très pratique, c'est très bien fait, ça fait peur aussi et ça laisse du coup la place à d'autres approches de la recherche sur Internet. Éric Léandry, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être au micro d'Inter, président et fondateur du moteur de recherche Quant, accueilli lors de son lancement avec indifférence, voire ironie. J'ai encore en mémoire certains articles de presse, mais ça c'était avant, comme on dit, sur Internet. Alors expliquez-nous Quant, un moteur de recherche français à la base.
Oui, Quant, nous sommes les fondateurs sont en France, les quatre quarts de nos ingénieurs sont en France. Donc on a commencé ici, mais le but, c'est on est rapidement devenu européen avec Axel Springer qui est arrivé d'Allemagne pour compléter de l'argent déjà à l'époque. Et puis aujourd'hui, on est en train de grandir au niveau européen avec deux vrais piliers en France et en Allemagne.
Alors, avant d'entrer dans le détail des choses, une question d'utilisateur. Est-ce que ce moteur de recherche est aussi efficace que Google ? C'est quand même la base, hein.
Oui, enfin, déjà sur Quant, 95% de ce que vous cherchez sur Google, vous allez le trouver. Donc déjà, vous n'allez pas être perdu, vous trouverez ce que vous cherchez d'habitude. Mais ce qu'on a surtout fait, c'est créer un moteur de découverte. C'est-à-dire que vous allez trouver ce que vous cherchez sur Google, mais vous allez aussi trouver les informations de l'actualité, des informations des réseaux sociaux, tout en un. Et donc, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il se passe d'autres choses, qu'il y a d'autres options que simplement les deux actualités qu'on vous met sur la première page d'un moteur connu.
Donc, c'est de la recherche pure et parfaite, ouverte, elle n'est pas biaisée par quoi que ce soit, expliquez-nous.
En fait, c'est vraiment ça, elle est neutre et on est pour la loyauté des plateformes. Donc, on est là pour juste utiliser, c'est le même algorithme qui vous donne les réponses pour vous et pour moi. Je ne vais pas utiliser le fait que vous soyez plutôt de droite ou de gauche pour vous proposer un journal plutôt de droite ou un journal plutôt de gauche dans la première réponse. Je ne vais pas utiliser le fait que vous aimiez plutôt le bleu ou le blanc pour vous donner une réponse. Donc, en fait, on ne va pas se servir de ça. On va s'occuper de ce qui se passe sur Internet, de ce que disent les gens sur Internet, des commentaires qu'ils font, des commentaires dans les réseaux sociaux, des informations qui viennent de l'Internet pour vous donner des réponses. Et donc, ce sont des réponses qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus ouvertes. Alors, c'est un peu bizarre au début.
Oui, moi je l'ai installé sur mon ordinateur depuis une semaine pour voir comment ça fonctionne. C'est effectivement assez déroutant dans un premier temps, même si ça fait le boulot parfaitement. Mais la manière d'organiser les choses, on est tellement habitué à Google que dès qu'on change un peu nos habitudes, c'est étrange. Alors, quelques questions encore de curiosité. Est-ce que c'est juste un moteur de recherche ou est-ce que vous proposez d'autres services ?
Alors, juste un moteur de recherche, c'est drôle puisque en réalité, tout démarre par la data. Donc, vous avez besoin de toutes ces informations de l'Internet pour pouvoir créer des services. On a créé Quant Junior, par exemple, pour les enfants, qui est aussi un moteur de recherche, mais où il n'y a pas de contenu adulte. Ça, c'est ce que font les moteurs de recherche en Safe Search. Et il n'y a pas de violence. Vous n'avez pas de tête coupée, vous n'avez pas de mort dans les rues. Donc vous pouvez aller sur Quant Junior quand vous avez 6 ans ou 12 ans et continuer à voir la Tour Eiffel quand vous tapez Paris. Ben ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas l'information venant de l'Internet. Donc juste un moteur de recherche. Tout est un moteur de recherche.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais pour prendre l'exemple de Google, il y a 1000 autres services autour.
Ah oui.
Alors non, vous, ça, vous, c'est juste un moteur de recherche et basta, ou il y a autre chose ?
Nous, c'est juste un moteur de recherche et ensuite on a tous les amis. Donc là, par exemple, on a fait un partenariat avec Firefox pour avoir Quant dans Firefox. Et là, vous avez un navigateur qui fait attention à votre vie privée, qui fait attention à vos data, qui ne vous les collecte pas, qui ne vous les prend pas, qui ne les revend pas. Après, on a fait un partenariat avec OpenX. Open Exchange, c'est une société allemande qui est le deuxième plus grand webmail. Il est européen, il est open source. Et vous avez la possibilité là de créer votre webmail sur un produit qui s'appelle OX.io. Et là, on est en train de faire des partenariats avec Cozy Cloud. C'est un cloud personnel. Donc, en réalité, on est en train d'étendre tous les services que vous avez chez le voisin, mais avec des gens qui font attention à votre vie privée, à vos data, qui ne les prennent pas pour les revendre.
Et qu'est-ce que vous faites pour la musique, par exemple ?
Ben, Quant Music.
Alors, expliquez-nous ça.
Quant Music, c'est tout bête. Aujourd'hui, quand vous regardez un géant qui fait de la musique, GG ou Google pour ceux qui le connaissent, il fait GG Music, c'est la même chose que Deezer, qui est la même chose que Spotify, qui est la même chose que iTunes, quelque part. Et donc, résultat, nous, ce qu'on a fait, c'est quand vous faites une recherche dans Quant, côté musique, vous avez tout le web sur votre artiste préféré, toutes les actualités de votre artiste préféré, tout le social de votre artiste préféré, plus toute sa discographie. Donc en réalité, vous avez un moteur de recherche de votre artiste avec tout ce qu'il y a sur Internet, plus ses vidéos, ses options. Donc en fait, vous avez des réponses globales qui vous intéressent.
Éric Léandry, donc, pour que les choses soient tout à fait claires, je fais une recherche sur votre moteur de recherche, sur Quant, j'ai mes réponses, et cette recherche n'est pas archivée, utilisée, malaxée.
Exactement.
Les données sont où, alors, du coup ?
Alors, en fait, les données viennent de l'Internet, c'est-à-dire vous faites votre requête, donc vous posez votre question, tout simplement au moteur, on va taper dans nos index et on vous envoie la réponse. Vous avez votre réponse sur votre écran, cette réponse... Vous cliquez ensuite sur un lien, vous sortez. Cette réponse, elle n'est pas liée à vous. On ne sait pas si c'est vous ou moi qui avez fait la requête, qui avez fait la question. Donc, dès le début, on anonymise votre IP, votre numéro de téléphone de l'Internet. On l'anonymise, on n'a aucune idée si c'est vous ou moi. Donc, l'idée globale, ce n'est pas de vous traquer, de revendre ces données, de les réutiliser ailleurs. L'idée, c'est tout simplement de vous donner accès au web.
Alors, on dit toujours... que le nouvel or noir, ce sont les données des utilisateurs. C'est ça ce qui a de la valeur sur Internet.
Non.
Alors du coup, moi, je me suis posé une question. Comment vous gagnez de l'argent ? J'imagine que c'est pas une entreprise philanthropique.
Non, ça marche très bien.
Alors dès lors que Google et tous les autres gagnent énormément d'argent en recyclant, analysant, mâchant et recrachant nos données, vous qui n'avez pas de données, comment vous faites ?
C'est très très simple. Moi, des données, j'en ai plein. J'en ai des pétages. J'ai toutes les données du web.
Des pétaoctets.
Des pétaoctets, donc c'est à peu près ce qu'il y a de plus gros aujourd'hui. Pas mal. Et résultat de l'histoire, en fait, on prend tout le web. Donc en fait, si on fait un parallèle, on fait la bibliothèque de l'Internet. On trouve tous les sites Internet comme on a tous les livres d'une bibliothèque. Et ça, ça vaut une fortune. C'est ce qui fait la fortune de Google. Après... Tant que Google ne faisait que ça, il valait que 100 milliards à la bourse et ne faisait que 40 milliards de chiffre d'affaires annuel. Ça, c'était en 2009, parce qu'il ne prenait pas vos data, il s'en servait pas, il les replaçait pas. Nous, on ne fait pas ça, on reste sur ce vieux modèle qui rapportait quand même 40 milliards par an à un géant. Et maintenant, depuis qu'il garde tout ça et qu'il les revend et compagnie, 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 ou qu'il s'en sert pour vous profiler ou faire votre ADN, il vaut 600 milliards. Nous, on reste sur le vieux business model, celui qui était de l'affiliation simple, qui n'avait pas besoin de vous traquer, qui ne vous met pas de la publicité partout. Et quand vous me dites que l'or noir, c'est les data des utilisateurs, non, l'or noir, c'est les data sur Internet. Après, les data de l'utilisateur, c'est autre chose. C'est pour vous vendre mieux la publicité, c'est pour vous faire payer plus cher vos chambres d'hôtel, c'est pour vous faire croire qu'il n'y en a plus ce soir dans l'endroit où vous voulez aller, c'est pour faire que vos billets d'avion augmentent à droite à gauche. Ça n'est pas du tout pour vous donner des réponses satisfaisantes ou qui vous aident.
Mais donc ça, cet aspect-là de l'économie de la recherche sur Internet, vous récusez d'un trait de plume.
Exactement.
C'est une position tenable, ça ?
Non seulement
à
tenable.
À court terme, sans doute, à moyen terme peut-être, mais à long terme ?
Alors, non seulement tenable, mais aujourd'hui, le numéro 1 du monde, celui dont on parle depuis tout à l'heure, 80% de son chiffre d'affaires, c'est cette position-là. Tout le reste, c'est les 20 nouveaux pourcents. Donc en fait, il a 60 milliards qui viennent que de sa vieille position et 20 milliards de la nouvelle, les vaisseaux spatiaux, les voitures qui roulent toutes seules et compagnie. Donc si vous restez sur un moteur comme Quant, aujourd'hui, c'est très rentable. Ce vieux business model marche très bien.
Qui vous finance ?
Alors aujourd'hui, nous avons eu la Caisse des dépôts qui vient d'arriver à notre capital, la Caisse des dépôts et consignations pour 15 millions d'euros. Nous avons Axel Springer qui a repris 3,5 millions d'euros et 20%. Donc résultat, aujourd'hui, on a... des très gros sur nos capitaux et surtout ce sont des gens qui sont en Europe, qui ne veulent qu'une seule chose, qu'on ne traque pas les gens, qui s'en iront si on les traque, qui respectent notre code éthique, qui ont décidé de valider le fait que en Europe, on devait respecter la privacy by design, c'est-à-dire la vie privée respectée d'abord. C'est les règles européennes, parce que vous voulez pas que je sache si vous êtes gay, si vous êtes hétéro, si vous êtes malade, si vous êtes en bonne santé, tout ça, j'ai pas à le savoir.
Moi, et je Google suis le sait.
Mais c'est bien sûr, et ils gardent tout et ils croisent tout. Et regardez, moi je suis corse, vous n'allez pas me donner toutes ces infos. Peut-être même pas où vous habitez. Et ben, vous donnez tout ça à des gens que vous ne connaissez pas. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un monsieur qui est arrivé à la tête d'un pays, je peux vous dire que ça va servir.
Vous parlez des États-Unis là.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il y a un souci politique derrière de faire en sorte qu'on ne soit pas scanner un poste frontière, qu'on puisse pas lire à travers notre usage d'Internet.
Écoutez, moi, je vais vous faire de la science qui n'est pas de la science-fiction. On va faire très très simple. Vous êtes un réfugié d'un pays en guerre aujourd'hui, c'est la Syrie pour ne pas le nommer, qui débarque en France, qui fait ses demandes d'autorisation de visa français, qui est accepté sur le territoire, qui ensuite fait des études, réussit, et qui demain a un passeport français. Il pourra peut-être pas se déplacer de l'autre côté du monde s'il est scanné et validé sur ce qui s'est passé avant dans ses réseaux sociaux. Je veux dire, à un moment, si le monde sait soupeser les gens avant même de voir si la personne est une bonne ou une mauvaise personne, je sais pas, mais c'est pas un monde qui m'intéresse.
Encore une question de curiosité avant de revenir au gros sou. Vous êtes corse, quel rapport avec... avec Google et Quant. Sur Google et Corse sur Quant, c'est quoi la différence?
Je vais vous donner la différence. C'est que dans un cas de figure, on respecte les gens. Ouais. Et de l'autre côté, on va utiliser ça pour me proposer, par exemple,
des voyages
billets
là-bas, des billets
bateaux à plus cher. Mmh.
Plus cher, pourquoi?
Ben, tout simplement, quand vous avez vous savez, la publicité, ça marche très simplement. Mmh. Au début, on essayait d'indexer les choses pour vous faire remonter le moins cher ou ce qui avait l'air d'être le plus pertinent. Et puis maintenant, c'est celui qui paye le plus cher. Et quand vous payez cher pour être premier, ben vous devez bien répercuter ça quelque part. Donc soit vous le répercutez sur le prix du billet, soit vous le répercutez sur quelque chose, mais c'est assez rare que vous ne le répercutiez sur rien.
Vous visez donc le marché européen, c'est ça le premier bassin, je dirais, naturel de Quant.
Ben, vous savez, en Europe, 95% des recherches, c'est le même moteur. Donc aujourd'hui, de toute façon, ça existe qu'ici. Aux US, c'est 62% pour lui, en Russie, c'est 48%, en Corée du Sud, c'est 8%, au Japon, 50%. Dès qu'il y a une alternative, ça fonctionne, et donc on est la première alternative qui fonctionne, donc allez.
L'Europe, c'est donc, et là on le voit puisque vous avez des financements qui sont conditionnés sur cet élément, c'est un autre rapport à la vie privée, un autre rapport aux données personnelles. C'est bien ça, c'est la clé, depuis toujours.
Depuis toujours, et le problème c'est qu'on l'a un peu oublié. C'est-à-dire qu'on avait tellement de bons rapports avec nos amis américains qu'on est rentré dans l'idée que ce soit pour la défense, que ce soit pour l'usage, que ce soit pour la souveraineté, c'était pas grave parce que de toute façon nos amis américains allaient à chaque fois nous donner de la data. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, moi je ne sais pas. Et aujourd'hui, franchement, je suis content qu'on ait créé de la data en Europe et que l'Europe nous soutienne. On a la BEI aussi au capital, la Banque Européenne d'Investissement, qui nous a fait un prêt, un très gros prêt. Et donc, le fait d'avoir ce soutien en Europe et de créer de la valeur en Europe pour les gens, avec des services qui marchent bien à 95%, bon, voilà. Mais déjà, si vous passez 90% du temps chez moi et 10% chez le voisin, je peux vous dire, j'ai des gros impôts à payer en fin d'année et moi, je les paye ici en France.
Avez-vous des retours des États-Unis? Est-ce qu'on a regardé ce moteur-là? Il y en a d'autres, hein, évidemment, des moteurs alternatifs, il y en a plein.
Ouais.
Mais est-ce qu'on a regardé Quant et on en a dit quoi?
Alors, en vrai, des moteurs alternatifs, il y en a peut-être d'autres, mais des vrais moteurs dans le monde, il n'y a que 7. Donc, ce n'est pas compliqué. Nous, on fait vraiment de la recherche et du crawl de l'Internet pour faire de la data. Donc, qu'est-ce qu'on en dit? Ben, je sais pas. Je crois qu'Eric Schmidt a dit, l'ancien président de Google et le VP de Google, je crois qu'il a dit que la concurrence, c'est un clic parce que vous pouvez vous acheter une tente de camping soit sur Google, soit sur Bing, soit sur Quant. Voilà, c'est gentil. Et le directeur actuel de Google, l'Indien, a déjà parlé 2-3 fois de nous. Donc oui, ils nous connaissent. Oui, on grandit. Oui, on peut leur servir des fois de bonnes excuses pour expliquer qu'il y a d'autres moteurs. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est à vous, les utilisateurs, de switcher, de passer à Quant.
C'est très simple, c'est le cas, c'est très simple à faire. Votre avenir, c'est quoi? C'est d'être une grosse niche?
Une grosse niche. Vous savez, même si on fait 5 à 10% du marché européen, le marché européen, c'est 22 milliards. Après, vous ajoutez un peu d'Afrique, parce que quand on indexe la France, on fait tout le pays francophone. Quand on fait les Anglais, on fait les anglophones. Quand on fait les Portugais, on fait les Lusitaniens et le Brésil. Si vous ajoutez ça, vous vous rendez compte qu'il y a un creuset de beaucoup de monde. Et résultat, 10 à 20% de ce type de creuset, c'est beaucoup. 5 à 10%, c'est déjà quelques milliards.
Bah écoutez, bon courage hein, et bonne chance à Quant. Merci Eric Léandri, vous êtes le président de Quant, donc je vous l'ai dit, moi je l'ai installé, alors je ne sais plus le désinstaller maintenant, donc c'est réglé, mais au moins je surfe sur internet avec la paix au cœur.
Oui, ne vous en faites pas, si vous passez de nouveau chez le voisin, il va vous dire « Ah, cliquez là pour me remettre par défaut » et ça sera assez simple. Et sinon on embauche beaucoup. Parce qu'avec les fonds qu'on vient de lever, on va embaucher une centaine, 150 de personnes, des ingénieurs, mais aussi des marketeurs, mais aussi des commerciaux, mais aussi des gens pour la communication. Donc on a vraiment une grosse demande. Donc j'en profite de votre audience pour dire qu'on va embaucher en France avec des Français en payant nos impôts ici.
Bah écoutez, merci encore Eric Léandri. Quant, donc bah c'est très simple, sur portable, sur ordinateur fixe. À vous de vous faire une idée. Dans quelques instants, le journal de l'International, 18h32 sur Inter, Aretha Franklin. Rocksteady sur Inter, Aretha Franklin, 18h35.
Tentiadas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Mickaël, direction la Tunisie avec le dernier ouvrage de Fawzia Scharfi.
Et oui, la grande physicienne tunisienne Fawzia Scharfi, professeure à l'université de Tunis et ancienne secrétaire d'État à l'enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire de janvier 2011. Et elle signe aux éditions Odile Jacob un formidable essai intitulé « Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui ». Une sorte de retour aux sources pour cette femme de culture musulmane et scientifique, une plongée dans les textes fondateurs du Coran, mais aussi dans les hadiths, les dires et actes du prophète. Ces milliers de textes, vous savez, qui, contrairement au Coran, forment l'essentiel des normes juridiques, des prescriptions et des interdits prônés par les partisans d'un islam rigoriste. Un retour au texte donc, mais aussi à l'histoire proche, celle de la Tunisie de Bourguiba jusqu'à la révolution de 2011, pour comprendre le pays tel qu'il est aujourd'hui en 2017. Alors j'ai d'abord simplement voulu savoir ce qui avait donné envie à Fawzia Scharfi d'écrire ce livre. Était-ce l'actualité récente, Daesh, la montée du terrorisme islamiste? Eh bien non, l'envie, le déclic, dit-elle, est beaucoup plus ancien, fin des années 70, en plein cours de physique.
Ça a été le déclic déjà au cours des années 80. J'ai commencé à m'interroger sur l'impact de l'islam politique sur la manière dont mes étudiants scientifiques acceptaient la science ou la refusaient. Donc fin des années 70, voilà, je faisais mon cours en deuxième année de fac, fac des sciences de Tunis, sur la relativité restreinte. Alors c'est très facile, hein, la relativité restreinte, il y a deux postulats. Un des postulats, c'est le fait que la lumière, donc, a une vitesse et elle a une vitesse finie. Et mes étudiants me disaient non, c'est pas possible. La lumière va avec une vitesse infinie. Ce qui m'a troublé, c'est qu'en fait, les étudiants réagissaient parce que, pour eux, Einstein s'était trompé. Il touchait à quelque chose qui pourrait être sacré. Il me disait, oui, mais vous voyez, regardez, c'est même écrit qu'Einstein s'est trompé. Alors, je demandais, qui écrit? Mais jamais ils ne m'ont apporté un seul article qui démontrait qu'Einstein s'était trompé. Et là, j'ai essayé de comprendre d'où leur venait cette idée-là. Et en fait, ils étaient en train de répéter le credo des islamistes, qui est d'abord le refus de l'Occident. Ça, il faut bien le dire. La raison n'a plus sa place pour les islamistes. Donc, vous voyez que l'impact de l'islam politique va beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Il touche aussi à la manière dont on considère le savoir. Ce qui faisait aussi que mes étudiants ne réagissaient plus avec leur intelligence.
Et autre raison d'écrire un tel ouvrage, pas très éloigné d'ailleurs de la première, c'est la nature de l'enseignement, le contenu même des programmes en Tunisie et dès le plus jeune âge des élèves. Fawzia Scharfi.
Une des raisons qui m'a amenée à écrire ce livre, c'est la manière dont l'islam a été présenté à mes filles à l'école. C'est là qu'on réalise que vraiment l'endoctrinement commence à l'école primaire, pas seulement au lycée. Voilà, à l'école primaire, on va dire à la fille, les chrétiens sont condamnés à l'enfer, puisque connaissant l'islam, ils auraient dû se convertir. On l'entend à l'école primaire, dans un cours d'instruction religieuse. On peut entendre aussi un professeur supposé être professeur de philosophie qui fait l'éloge de la polygamie. Donc vous imaginez quand même qu'on est très loin de ce qu'on peut appeler la culture du savoir. Et c'est ça qui est effrayant, c'est de se dire quand même dans nos pays de grande tradition. Mais pour certains, ils sont vraiment, on les oblige à être schizophrènes en fait. Parce qu'ils vivent. En même temps, en Tunisie, un monde qui est moderne. Bon, ben, la polygamie est abolie en Tunisie, interdite depuis 1956. Et en cours de philo, on leur enseigne que voilà, la polygamie a des avantages.
Voilà, cette jeunesse tunisienne devenue schizophrène, plus tiraillée que jamais. Page splendide, je le dis vraiment, à lire dans cet essai. Mais entre la Tunisie de Bourguiba, celle des années 60, et la Tunisie d'aujourd'hui, post-révolution, eh bien, quels sont les changements majeurs? Réponse.
Alors, les changements majeurs, bon, je vais dire dans la rue, il y a quand même un changement majeur, c'est le voile. Vous savez, pendant longtemps, je ne voulais pas parler du voile, je vais vous dire. Et puis là, en écrivant, je me suis dit que, bon, il fallait quand même que je puisse dire à quel point on est loin de l'esprit du texte coranique, je le redis, et puis aussi de notre culture. C'est vrai que dans la tradition, les femmes portaient le voile, mais c'était l'occasion pour les filles de montrer aussi leur, capacité artistique, elles brodaient leur voile, etc. Puis quand elles le portaient, c'était un accessoire de féminité, comme ailleurs en Europe à l'époque. Et là, aujourd'hui, le voile est devenu une sorte de marque identitaire. Et c'est un signe politique. L'origine du voile n'est absolument pas religieuse. Je rappelle comment en 57, les femmes avaient manifesté dans la rue pour dire, voilà, on enlève le sefseli, c'est le voile traditionnel. Pour mes camarades de classe, c'était une libération. Alors qu'aujourd'hui, les femmes affichent ce voile, et que ce soit dans les administrations ou même dans les hôpitaux, etc. Les femmes ne se rendent pas compte que c'est le début de la fin de la mixité. Il faut réaliser que c'est un signe d'infériorité pour les femmes, et c'est aussi une manière de mettre fin à la mixité petit à petit et de ramener la femme là où elle était, c'est-à-dire dans l'espace de la maison familiale, etc. Et certains arguments aujourd'hui de certains islamistes sur la question du chômage, c'est de dire, eh bien voilà, si les femmes ne travaillaient pas, eh bien il y aurait plus de place pour les hommes. C'est une régression.
Alors, près de 6 ans maintenant, après la Révolution, que reste-t-il aujourd'hui de ce formidable espoir né de la chute du régime Ben Ali ? Eh bien, finalement, l'essentiel.
Écoutez, il reste la liberté. Là, je suis en train de vous parler librement. Nous avons la liberté de nous exprimer, ça. Pour ceux qui n'ont jamais imaginé être censurés, etc. Mais c'est fondamental. Alors, nous n'avons pas résolu le grand problème du chômage. Ça, c'est la grande difficulté actuelle, et c'est très douloureux de voir ces jeunes diplômés ou non diplômés à la recherche d'un travail pendant des années et des années. Ajoutez quand même à cela que la Tunisie a perdu ces millions de touristes qui venaient en Tunisie. En ce qui concerne la vie politique, bon, ça se construit lentement. Et ce qui est magnifique en Tunisie, c'est la société civile. Et c'est pas parce que je suis une femme que je vais vous le dire, c'est aussi la résistance des femmes tunisiennes. Parce que c'est elles qui ont tenu bon en premier sur la question de la constitution, sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ont refusé, nous avons refusé le concept de complémentarité de la femme par rapport à l'homme que les islamistes voulaient imposer dans la constitution. Donc c'est peut-être étonnant, mais vous savez, eh ben je ne suis pas inquiète.
Voilà, elle n'est pas inquiète, Fawzia Charfi, magnifique scientifique tunisienne, qui signe donc chez Odile Jacob, Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui, à lire vraiment d'urgence.
Et après la Tunisie, Michael, on file au Sénégal, sur l'un des plus grands campus universitaires du pays.
Oui, le campus de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, inauguré en 1959. Université connue et reconnue partout en Afrique, et bien sûr en Afrique de l'Ouest. 80 000 étudiants, 60 nationalités représentées. Mais une université en grande difficulté, surpeuplée, littéralement saturée, et régulièrement théâtre de grèves, de manifestations. Alors des projets ont été lancés pour tenter de désengorger le campus. Mais en attendant, pour la majorité des étudiants, comme pour les profs d'ailleurs, eh bien le quotidien est particulièrement difficile. Bonsoir Amélie Tullet, correspondante de France Inter à Dakar.
Bonsoir Michael.
Alors on commence notre visite, Amélie, à la faculté qui reçoit donc chaque année le plus grand nombre de bacheliers, c'est la faculté de lettres.
Oui, nous sommes avec un étudiant, Pabouna Faye, en haut d'un amphithéâtre de 1000 places assises, en théorie, car il faut enlever les chaises cassées, pour plus de 2000 étudiants inscrits en première année.
L'amphi est plein à craquer. On voit même des étudiants qui n'ont pas pu avoir une place. Et ceux qui sont assis, ils sont arrivés une heure avant le cours, raison pour laquelle ils ont eu une place.
Des étudiants s'installent dans les travées ou sur des briques qu'ils ont apportées. D'autres s'assoient sur l'estrade du professeur. Surpopulation dans les amphis, mais aussi dans les chambres universitaires. 10 000 lits officiellement pour 5 fois plus d'étudiants hébergés. Malan a passé l'année au pavillon A, considéré comme le pire de tous.
Toutes les conditions nous mènent à l'essai. 7 personnes par chambre, il n'y a que 2 lits. Des fois on est obligé, d'autres sont obligés de sortir à l'extérieur pour étaler leur matelas. Et puis il y a beaucoup de bruit.
Alors comment vous étudiez ?
Après le dîner, je quitte pour aller dans les amphithéâtres. C'est là-bas que je passe la nuit. Je reviens qu'à 4h du matin comme ça. On se repose avant 8h, 6h cours.
Tous les soirs à la nuit tombée, on peut donc voir des étudiants qui fuient la promiscuité. Comme Modou, ils sont dehors et ils viennent réviser sous les lampadaires.
Chaque jour, on est là, on apprend nos leçons.
Malgré qu'il y a des moustiques aussi, parfois il fait fraîche, mais on gère.
Des conditions difficiles pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs. Dans une université surchargée, l'encadrement, la correction des copies, le suivi des tests, tout devient problématique. Le professeur Amadouli a vu ses conditions de travail et le niveau de ses étudiants se dégrader vertigineusement en 40 ans de carrière.
Nous avons connu des programmes dits d'ajustement structurel, surtout dans les années 80, où la Banque mondiale et le FMI nous ont imposé des coupes drastiques dans les budgets et autres. En même temps, il y a eu, disons, une sorte de course à l'éducation universelle. Donc on a créé énormément d'établissements secondaires. On a un peu bradé l'enseignement secondaire et par effet de domino, ça a suivi dans le supérieur. Donc nous sommes retrouvés au détour des années 90 avec une masse énorme de bacheliers qu'il fallait coûte que coûte caser. Et voilà pourquoi la situation que nous vivons.
Les professeurs sont régulièrement en grève car il y a aussi des retards dans le paiement des salaires et dans la revalorisation des retraites. Face à toutes ces difficultés, le recteur, le professeur Ibrahim Atioub, estime que les décisions politiques nécessaires ont été prises, mais qu'il va falloir supporter une phase de transition difficile.
Dormir à 8 dans une chambre et retourner à la fac, suivre des cours dans des amphis qui ne peuvent pas contenir les étudiants, personne ne nie que c'est extrêmement difficile. Il faut y ajouter que des constructions sont en cours dans toute l'université, des amphis sont en train d'être réhabilités, l'extension de la carte universitaire fera souffler l'UCAD. Et je pense que si nous stabilisons notre système autour de 50 000 étudiants, ce sera tenable.
Objectif atteignable selon le recteur d'ici 2020. Plusieurs universités ou instituts sont en cours de construction dans le pays. Il faut dire, Michael, que jusqu'il n'y a pas si longtemps, au Sénégal, il n'existait aucune formation post-bac à plus de 120 km de la côte atlantique.
Reportage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Reportage signé Amélie Tulé. Merci beaucoup Amélie et Nico. À demain.
À demain, Michael.
Get down!
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Il est 18h47, Trump à la Maison-Blanche, c'est notre rendez-vous américain du lundi en direct de Washington avec Frédéric Carbone. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Encore une semaine chargée Frédéric, et toujours le sparadrap du décret anti-immigration retoqué par les juges de Californie. Frédéric, une nouvelle version du texte est annoncée.
Oui, parce que même s'il n'est pas question de reconnaître une défaite et de jeter à la poubelle cette première version, il y a effectivement réécriture et c'est la même plume qui s'en charge, un jeune conseiller de 31 ans de Donald Trump, un homme proche de Steve Bannon et qui a dénoncé l'islam comme une religion en soi dangereuse. Stephen Miller faisait donc hier la tournée de tous les plateaux télévisés pour faire passer un message, pas question de céder face au juge.
Nous avons beaucoup parlé du fait que toutes les branches du gouvernement sont égales. C'est essentiel. Rien ne dit que la justice est supérieure. Ce que les juges ont fait, c'est de s'approprier un pouvoir qui est clairement entre les mains du président.
La Maison-Blanche reste donc sur son principe. La Constitution donne tout pouvoir au président sur la sécurité et le contrôle des frontières. C'est justement un aspect que la Cour d'appel avait contesté dans sa décision. Le nouveau décret sera rendu public dans les jours qui viennent. Faut s'attendre au même genre d'interdiction en s'en prenant peut-être pas à ceux qui ont déjà un visa et en associant un peu plus les républicains du Congrès. Pas opposé au fond de ce décret, mais qui ont critiqué l'amateurisme de l'application de la première version.
Pour le reste, Frédéric, ça secoue déjà très fort dans l'administration américaine avec une crise majeure qui concerne un très proche de Donald Trump.
Absolument, et c'est une des figures les plus controversées qui est dans l'œil du cyclone, le général Flynn est le conseiller à la sécurité nationale du président américain. On en a déjà parlé ici, il n'a pas franchement le profil d'un expert apportant de la crédibilité et de la sagesse. Il inquiète dans de nombreuses chancelleries et depuis plusieurs jours, deux questions très gênantes sont posées. A-t-il, avant même l'investiture de Donald Trump, parlé de la question des sanctions avec ses interlocuteurs russes et l'a-t-il caché aux autres responsables de l'administration ? Ces conversations ont eu lieu au moment où, justement, Barack Obama imposait de nouvelles sanctions à la Russie après le piratage de la campagne Clinton, expulsion notamment de diplomates. Et voilà ce que disait à l'époque, hein, c'était il y a un mois, Mike Pence, le vice-président, défendait le général Flynn.
Ce que je peux confirmer après lui avoir parlé, c'est que ces conversations qui ont eu lieu au moment de l'expulsion des diplomates russes, elles n'avaient rien à voir avec les sanctions.
Aujourd'hui, il semble évident que ce genre de sujet a été évoqué. Alors, est-ce que Mike Flynn a menti au vice-président? La presse américaine affirme que les couteaux sont sortis autour du général Flynn. Donald Trump n'a donné aucun signe de soutien pendant le week-end. Et quelle que soit l'issue à court terme de cette affaire, elle illustre deux choses. D'abord, les affrontements sévères au sein de l'administration. Et puis, l'ampleur des fuites sur les sujets les plus sensibles. Le milieu du renseignement sur ce dossier de la Russie est en conflit avec la Maison-Blanche. Et le général Flynn est sans doute la personne à laquelle ces agences font le moins confiance.
Plus étonnant, Frédéric, on va dire un mot de la télévision et de la conversation nationale chez vous aux États-Unis. Les gens devisent, Frédéric, sur le fait de savoir si Donald Trump est sain d'esprit.
C'est vrai, et c'est pour cela que je voulais vous faire entendre un extrait d'une de ces interviews assez traditionnelles des shows politiques du dimanche à la télévision américaine. On est sur CNN, genre, hein, Nicolas, votre émission, question politique, du sérieux, pas de la rumeur. Et voici un échange avec le sénateur démocrate Al Franken. La question, vous allez l'entendre, est presque aussi intéressante que la réponse.
Est-ce vrai que des élus républicains s'inquiètent de la santé mentale du président Trump?
Quelques-uns. C'est pas la majorité, quelques-uns.
Et de quelle manière?
De la même manière que nous avons tous des soupçons. Il ment beaucoup, et ce n'est pas la norme pour un président des États-Unis, comme pour tout être humain.
Incroyable.
Ouais, voilà, ça fait désormais partie de la conversation américaine. Vous employez ce mot, il est très juste. Jusqu'où ce rapport lointain à la vérité, à la réalité est-il pathologique? À cela, paraît-il, Donald Trump répond « Je suis la personne la plus stable que l'on ait jamais connue ».
Allez, regardons maintenant, Frédéric, du côté des démocrates. Que se passe-t-il pour les opposants à Donald Trump?
C'est une question essentielle parce que ce qui se passe du côté des opposants à Donald Trump, c'est un activisme multiforme. Vous avez la ministre de l'Éducation qui ne peut pas faire sa première visite d'école à cause des dizaines de manifestants. Vous savez qu'ils lui reprochaient de ne pas être favorable à l'école publique. Et partout, partout dans le pays, les élus républicains sont chahutés dans leurs réunions publiques en ce moment, comme ici, on va l'entendre, dans l'Utah. Voilà, faites votre travail, ce que vous faites c'est nul, ça se passe partout, hein, c'est le problème, dans des dizaines d'États ces derniers jours, un mouvement venu de la base, très mobilisé sur les questions liées à l'immigration et à la remise en cause de la réforme de la santé, cela gêne les républicains, mais c'est aussi un vrai défi compliqué pour les démocrates, défi que résume ainsi la figure pendant la campagne de la gauche du parti, Bernie Sanders.
Ce que nous devons faire dès maintenant, c'est réunir les Américains autour d'une plateforme progressiste. Moi, ce qui m'importe, c'est de réformer profondément le Parti démocrate pour ouvrir ses portes aux ouvriers, aux gens modestes, aux jeunes qui ne se sont pas sentis bienvenus chez les démocrates.
En fait, ce qui se passe là dans le camp démocrate, ça ressemble au Tea Party qui avait ébranlé le Parti républicain juste après l'élection de Barack Obama en demandant là aussi d'être fort, de ne pas céder, de ne céder sur rien. Et cette contestation, elle est d'autant plus difficile à canaliser qu'il n'y a pas aujourd'hui de dirigeants démocrates autour duquel organiser le parti.
Et pour finir, Frédéric, un chiffre, je sais pas comment le qualifier, hallucinant, délirant, fou.
En tout cas, que nous livre ce chiffre l'hebdomadaire Time Magazine. En Floride, le 8 novembre dernier, pour la présidentielle, vous avez eu 161 000 bulletins de vote. Mickey, c'est vrai qu'on est dans l'état de Disney World, et l'écart Trump-Clinton, là-bas en Floride, a été d'environ 120 000 voix. Je sais qu'on n'est pas, Nicolas, dans l'analyse politique très rigoureuse, mais se dire que Mickey a contribué à faire élire Donald, ça fait quand même un tout petit peu.
Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci. Dans quelques instants, Anthony Bélanger. The Inspector Clouseau.
Take a look at his socks. I'm
Anthony Bélanger pour l'édito.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Anthony, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On reste sur le continent américain, direction le Canada, vers lequel se tournent les migrants rejetés par les États-Unis.
Les chiffres sont même impressionnants. En un an, le nombre de migrants passant à pied, l'immense frontière qui sépare les deux pays, a triplé au Québec et a été multiplié par 10 entre le Minnesota et la province canadienne du Manitoba. Et ces chiffres ne valent que pour ces deux provinces. Le constat est le même, sans chiffres cette fois, avec le reste du Canada qui partage avec les États-Unis, vous savez, 6400 kilomètres de frontière, si l'on est excepte celle avec l'Alaska, et près de 9000 km avec l'Alaska. Impossible donc de tout surveiller. Il faut souligner quand même deux éléments. D'abord, traverser la frontière américano-canadienne n'a rien d'une partie de plaisir. Ces dernières semaines, beaucoup de migrants se sont retrouvés dans des hôpitaux canadiens sitôt la frontière passée, avec de graves engelures. Ensuite, beaucoup de ces migrants, écoutez bien, ont parfois voyagé plusieurs mois, typiquement 5 ou 6 mois, depuis par exemple la Corne de l'Afrique ou le Moyen-Orient, en passant par l'Afrique du Sud, le Brésil, puis en remontant toute l'Amérique latine jusqu'aux États-Unis. Enfin pour eux, le Canada, c'est souvent un second choix. Ils avaient d'abord tenté de rester aux États-Unis, mais se sont heurtés aux restrictions du système d'asile. Vous savez qu'aux États-Unis, renvoie au pays un demandeur d'asile débouté. Le Canada, lui, n'expulse pas vers les pays dangereux.
Et c'est même l'inverse, Anthony, puisque Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, ne cesse d'expliquer que son pays est une terre d'accueil.
Il le fait constamment, et notamment en tweetant. C'est d'ailleurs le seul point commun que j'ai réussi à trouver entre Donald Trump et le sémillant Justin Trudeau. Leur amour immodéré du message en 140 signes, mais Justin Trudeau utilise Twitter pour faire passer ce genre de message, à tous ceux qui fuient les persécutions, la terreur et la guerre. Les Canadiens vous accueilleront quelle que soit votre religion. Trudeau a le tweet humaniste, pas vraiment Trump. Reste qu'il peut faire passer ce message sans grande difficulté, et pour une raison toute bête, malgré le triplement des passages illégaux, vous savez, entre les États-Unis et le Québec dont je vous parlais plus tôt, le chiffre absolu reste extrêmement limité. De 500 l'année dernière à 1500 personnes cette année. Autrement dit, il n'est pas très compliqué d'être généreux lorsque les chiffres sont si minces. Le Canada reste tout de même protégé par ses vastes frontières maritimes, et paradoxalement, par l'immensité des États-Unis, et puis une nation de 35 millions d'habitants peut gérer quelques milliers de migrants supplémentaires.
Et que vont se dire aujourd'hui Trudeau et Trump? Ils se rencontrent en ce moment.
Pour vous répondre, j'ai trouvé une métaphore dans la presse canadienne. C'est un universitaire qui en est l'auteur. Discuter avec Trump, dit-il, c'est comme être à bord d'un avion piraté. Il faut être gentil à l'heure de négocier avec le pilote enfermé dans le cockpit. Le pilote fou, vous l'avez compris, c'est évidemment Donald Trump. L'avion, c'est toute l'Amérique du Nord qui donc est prise en otage, et c'est particulièrement vrai pour le Canada, dont les trois quarts des échanges commerciaux passent par les États-Unis. Donc, Justin Trudeau a commencé par appeler Theresa May et François Hollande, histoire d'avoir un peu de biscuit. Comment lui parler? Que faut-il éviter de lui dire? Bref, comment dompter la bête? On ne sait rien, évidemment, de ce qu'ont dit les Européens. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas être simple. Donald Trump a tout de même réussi à se fâcher, justement sur une affaire de migrants, avec le chef de gouvernement le plus américanophile de la planète, l'Australien Malcolm Turnbull. L'idée, c'est de souligner le plus possible ce qui rassemble, donc, et d'aborder un tout petit peu, pour l'honneur, ce qui sépare. Mais il est certain que l'ambiance sera très différente de la véritable surprise partie organisée pour Trudeau par Obama il y a moins d'un an. Est-ce que vous voulez une nouvelle métaphore canadienne?
Allez, feu!
Elle est de Pierre Trudeau, cette fois, le père de Justin, ancien Premier ministre du Canada. Vivre près des États-Unis, c'est comme dormir avec un éléphant. Même s'il vous veut du bien, le moindre de ses mouvements peut vous écrabouiller.
Anthony Bélanger, merci. Un mot du téléphone. Téléphone sonne à 19h20, consacré ce soir aux jeunes et à la politique. Quelles sont les formes de leur engagement? Se reconnaissent-ils encore dans les élections et le bulletin de vote? Ou ont-ils tourné le dos à ces rituels classiques de la démocratie? Enfin, les hommes et les femmes politiques savent-ils s'adresser aux jeunes ou construisent-ils leur programme pour ceux qui votent, à savoir les plus âgés? Toutes vos questions, 01 45 24 7000. Le journal dans quelques instants.